Alors, je vous invite à trouver le psaume 124. Le psaume 124. Nous allons continuer notre série dans les Cantiques des Montées, qui commence au psaume 120 jusqu'au psaume 134. Ces chants s'appellent les Cantiques des Montées, les Cantiques des Degrés, les psaumes des pèlerins et d'autres noms parfois qui leur sont donnés. Et il s'agissait, comme j'ai dit les autres fois, des chants que les fidèles chantent en route pour le temple afin de préparer leur cœur pour rencontrer Dieu et pour adorer le Seigneur. Le psaume 124 est le 601e chapitre dans la Bible. Si vous avez du mal à trouver le psaume 124, vous commencez à Genèse 1 et 3 jours plus tard, vous allez trouver le 601e chapitre. Je lis ce psaume. On va regarder 3 psaumes ce matin. 3 psaumes très courts. Cantique des Montées de David. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psaume 124. Je donnerai un titre à ce psaume et c'est tout simplement « Heureusement que Dieu est là ». Parce que deux fois, David qui l'a écrit dit « Heureusement que Dieu est là ». Si Dieu n'avait pas été là, eh bien je serais mort. Si Dieu n'avait pas été là, le peuple de Dieu serait mort, aurait disparu. Mais heureusement que Dieu, il était là avec nous. En parlant de ces difficultés dans ce psaume, David évoque 3 images. Et je vais vous les montrer. Il parle des bêtes qui engloutissent. Il parle des eaux qui envahissent. Et il parle des mailles d'un filet qui saisissent. 3 images et 6 images, on retrouve ailleurs dans les psaumes et surtout dans les prophètes, des images employées pour décrire les difficultés que les croyants peuvent connaître parce qu'ils veulent rester fidèles envers le Seigneur. Alors, on va regarder d'abord la première image des bêtes qui engloutissent. Il évoque la colère des gens qui s'opposent à lui. Il sait qu'il veut rester fidèle envers le Seigneur et ça met des gens en colère. Et en parlant de la colère des gens, il parle de leurs dents, de leurs crocs, de leur animosité, de leur agressivité. Il dit, mais je suis comme une proie devant eux. Ils sont prêts à venir me manger tout cru. Mais il sait aussi que malgré les gens qui sont contre lui, il sait que Dieu était pour lui. À 2 reprises dans ces 2 versets, versets 2 et 3, il parle de ceux qui sont contre nous, contre nous. Mais à 2 reprises, il dit, mais quelqu'un est pour nous, pour nous. Des bêtes qui sont prêtes à dévorer des chrétiens. Une image. Une deuxième image, des eaux qui envahissent. Il compare ces difficultés à un déluge. Vous savez, il y a quelques semaines, on a vu des inondations à la télé. Et c'était terrible parce que devant l'eau, on ne peut rien. On est impuissant. Et les dégâts que l'eau peut faire est vraiment terrible. Eh bien, il dit, mais mes ennemis, c'est comme des eaux, des torrents, des eaux tumultueuses, des flots impétueux. Et il dit, mais il fallait que je garde ma tête hors de l'eau. Parfois, il avait l'impression peut-être qu'il allait couler, qu'il allait se noyer. Parfois, il était envahi par toutes sortes de pensées et de sentiments, de peur face aux difficultés. Mais Dieu lui a permis de garder sa tête hors de l'eau. Quand il vous arrive de vous croire en train de couler, en train de vous noyer à cause de toute une montagne de soucis, de pensées, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, David va nous aider à savoir ce que nous devons faire quand on a l'impression de couler et qu'il n'y a plus de bouée de sauvetage. La troisième image, les mailles d'un filet qui saisissent. Tandis qu'on peut voir une bête qui rugit, on peut entendre la mer qui se déchaîne. Souvent, on n'entend ni ne voit un chasseur qui rit par derrière pour attraper un oiseau dans son filet. C'est l'image qu'il emploie. Et parfois, le diable est très, très subtil dans les difficultés que nous pouvons connaître. David connaissait épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, souci après souci. Pour lui, c'était presque trop, c'est trop. Mais que fait-il dans ces difficultés? Eh bien, il fait ce que nous avons dit sans cesse depuis une heure. Il fait confiance au Seigneur. Il fait confiance à celui qui a fait les cieux et la terre. C'est la deuxième fois dans ces psaumes qu'il est question de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le psaume 121, on lit « Dieu a fait les cieux et la terre ». Et ici, dans le dernier verset, on lit que Dieu a fait les cieux et la terre. David pense à la toute-puissance de son Dieu. Et sachant que Dieu était tout-puissant, il sait que Dieu était pour lui. Il sait que Dieu était plus fort que les bêtes sauvages, plus fort que les eaux tumultueuses, plus fort que les chasseurs, les oiseleurs avec le filet qui veulent attraper les bons. Il sait qu'il peut faire confiance au Seigneur. Puisque Dieu est là, il sait que Dieu lui donne son secours. C'est pourquoi que je dis, heureusement que Dieu est là. Et parfois quand on regarde en arrière dans notre vie, on peut facilement dire, mais heureusement que Dieu était là ce jour-là, cette année-là, lors de cet accident-là, cette maladie-là, cette épreuve-là. Dieu est présent. Dieu est là dans la vie de ses enfants. Et pas seulement il est là, mais il est écrit plusieurs fois dans l'Ancien Testament que Dieu combat pour son peuple. Autrefois, Josué avait dit à son peuple, « L'Éternel, votre Dieu, combattez pour vous dans le désert, dans les difficultés. » Il veut rappeler aux gens, mais n'oubliez pas, Dieu dans le passé combattait pour vous. Et il combattra au présent et à l'avenir. Néhémie, dans les difficultés, il dit, notre Dieu combattra pour vous, pour nous. Moïse, devant la mer Rouge et devant l'armée égyptienne, dit à son peuple, l'Éternel combattra pour vous et vous, bouclez-la. Ça, c'est dans ma version de la Bible. Dans les autres, c'est marqué, et vous, gardez le silence. Quand Dieu combat pour son peuple, nous devons garder le silence, nous taire et lui faire confiance. Facile à dire. Pas toujours facile à faire. Mais c'est possible de le faire. Nous pouvons venir tout simplement dire au Seigneur, je suis sans force, mais je ne suis pas sans espérance. Car toi, tu es là. Tu as fait les cieux et la terre. Tu as déjà déployé ta toute puissance à des millions de fois. Eh bien, Seigneur, dans ma vie aujourd'hui, s'il te plaît, montre ta puissance, montre ta grandeur. Des gens sont contre nous, mais si Dieu est pour nous, nous ne devons rien craindre. Sur l'écran, il y a quelques noms que vous ne connaissez peut-être pas. Le premier nom, William Wilberforce, était un député britannique il y a à peu près 220 ans, 230 ans. Et pour lui, sa mission dans la vie était de mettre fin à l'esclavage. Beaucoup de membres britanniques étaient réjouis de l'esclavage, parce que ça apportait bien beaucoup d'argent aux blancs. Mais William Wilberforce, un blanc, a dit, il faut mettre fin à l'esclavage. Eh bien, il a consacré 40 ans de sa vie à cela. Pendant cette lutte de 40 ans, il s'est converti, parce qu'au début, il n'était même pas converti. Il s'est converti grâce à John Newton, un pasteur anglican qui avait composé, parmi d'autres chants, le chant, le cantique « Amazing Grace »,« Ô grâce merveilleuse ». Et grâce à son amitié avec Newton et avec d'autres, Cela l'a encouragé parce qu'il avait bâton après bâton après bâton donné haut. Wilberforce savait ce que c'était d'avoir des bêtes méchantes contre lui au sein du Parlement britannique. Il savait ce que c'était de lutter contre les eaux tumultueuses et les filets des oiseleurs qui voulaient l'attraper et le piéger. Mais il a continué parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Les chrétiens priaient pour lui. Et un jour, en 1791, John Wesley, quelques jours avant de mourir, l'évangéliste Wesley a écrit à Wilberforce. Et dans son petit courrier, il a dit, « Si le Seigneur ne t'a pas appelé à mettre fin à l'esclavage, tu vas t'user et te fatiguer. Par contre, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?» Une parole du ciel pour Wilberforce, pour le rappeler, « Mais Dieu est pour moi. Qui, tous ces députés, sont contre moi, mais ils ne valent rien comparé à la puissance de l'Éternel. » 1837, c'était la fin de la traite des Noirs, des esclaves. 1833, c'était la fin de l'esclavage en Grande-Bretagne, dans l'Empire britannique. Et 15 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé en France? La France et d'autres pays ont suivi. Ils ont mis fin à cette terrible activité. Parfois, on est sans force, on se sent seul, mais n'oublions pas que l'Éternel est pour nous, à condition, bien sûr, que nous soyons avec lui, pour lui. Hein? Il y a des conditions dans les promesses du Seigneur. Passons au psaume 125. Le psaume 125, Cantique des montées. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. J'ai choisi comme titre de ce psaume le bon choix et le mauvais choix. Tous les jours, on fait des milliers de choix, chaque jour, chaque individu. On choisit de se lever ou d'envoyer un peu plus. On choisit d'appuyer sur l'alarme pour l'arrêter, ou on la prend, on la jette par la fenêtre, ou on fait semblant qu'on n'a rien entendu. On fait des choix toute la journée. Et ici, il y a deux choix. Soit faire ce que Dieu veut, se confier en lui, soit faire ce que Dieu ne veut pas et s'éloigner de Dieu et s'engager dans ce que le psalmiste appelle des voies tortueuses. Alors, ce psaume, comment le résumer? Grâce à Dieu, par le moyen de la prière, je peux rester debout. Au début de ce psaume, le psalmiste ne dit pas « les chrétiens devraient ressembler à la ville de Jérusalem ». Il dit « les chrétiens ressemblent à la ville de Jérusalem ». C'est-à-dire un endroit solide, stable, sûr, entouré des montagnes, mais il compare les croyants avec cette ville qui est d'ailleurs encore là aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a eu contre cette ville. Les chrétiens peuvent connaître stabilité, sécurité et solidité. Le psalmiste introduit quelque chose qui est peut-être un peu nouveau ici pour certains. Nous savons tous, le Seigneur est avec moi. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le psalmiste dit, pas seulement Dieu est avec nous, mais il dit, Dieu est devant nous, Dieu est derrière nous. Il dit, comme les montagnes entourent la ville, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ce qui veut dire que tout chrétien est entouré par le Seigneur. Il est devant, derrière, à côté, et en nous. Pensez-y un peu. Grâce à Dieu, par le moyen de la prière, je peux rester debout parce que Dieu est là, même quand la terre chancelle. Deuxième chose, verset 3, grâce à Dieu et par le moyen de la foi, je resterai fidèle. Il est question ici de la tentation d'être attiré vers la fraude, vers le mal, vers l'infidélité, vers des actions coupables. Et le psalmiste nous encourage à ne pas vouloir emprunter des voies tortueuses, à ne pas vouloir ruser et tricher comme monsieur et madame tout le monde. Le verset 3, dans la transcription d'Alfred Kuhn, se lit ainsi. Ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses et ceux qui commettent l'injustice seront balayés par le Seigneur. Balayés par le Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste nous encourage à ne pas suivre la majorité, on va dire, mais à oser nager à contre-courant afin de plaire au Seigneur. Dieu nous aidera toujours à résister à toutes sortes de tentations, à condition qu'on lui demande de nous aider. Un humoriste, Oscar Wilde, a dit ceci: la seule chose à laquelle je n'arrive pas à résister, eh bien, c'est la tentation. Et on a tous du mal à résister à la tentation. Mais grâce au Seigneur, il peut nous aider à résister à la tentation. Si nous faisons le bon choix, c'est-à-dire faire ce que Dieu me demande de faire, et si nous rejetons le mauvais choix, faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Le bon choix, se confier en Dieu, lui obéir. Troisièmement, versets 4 et 5, grâce à Dieu, par le moyen de la foi, je resterai confiant. Le psalmiste est conscient et confiant que Dieu est bienfaisant, que Dieu est bon, que Dieu déverse sa bonté sur lui jour après jour. Et il sait que Dieu aussi, il donne la paix. Mais il sait aussi que Dieu demande que lui, il soit droit, qu'il soit quelqu'un de bien et qu'il reste fidèle envers le Seigneur. Au psaume 124, nous avons le psalmiste qui est face à des gens qui le détestent et qui veulent l'écraser. Au psaume 125, le psalmiste est face à le péché, la tentation, tout ce qu'il y a autour de lui qui pourrait l'éloigner du Seigneur. Et moi, je me dis, mais malgré tout, contre vents et marées, contre tout ce que le diable veut jeter devant nous, eh bien, nous pouvons survivre et même bien vivre dans ce monde pourri, à condition qu'on mette Dieu en premier dans notre vie et qu'on marche simplement et humblement devant le Seigneur. Grâce à sa présence en nous, devant nous, derrière nous, avec nous, il peut nous aider à rester fidèles, à rester debout et à rester confiant. Passons au psaume 126. Soit dit en passant, ce n'est pas tous les jours qu'on prêche sur trois chapitres un dimanche matin dans cette église. Peut-être heureusement d'ailleurs, mais c'est des courts chapitres. Le psaume 126, cantique des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Négeb. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Dans ce psaume, il est question de recevoir et de remercier. Il est question de semer et de récolter. Il est question de chanter avec des cris de joie. Il est question de chanter avec des cris de victoire. Versets 1, 2, 3 et 4, il est question de recevoir et de remercier. Juste pour donner le contexte historique de ce psaume, eh bien, le peuple de Dieu avait été emmené en captivité à cause de leur péché, de leur infidélité, et pendant 70 ans, ils ont passé toute cette période à l'étranger. Et Dieu, dans sa bonté, et suite à ses promesses faites par ses prophètes, eh bien, Dieu les a ramenés en Israël. C'est pour ça qu'il est question de Dieu qui ramène les captifs. Et lorsque le peuple est revenu en Israël, vous imaginez, ils avaient beaucoup de cris de joie, de cris de triomphe. L'Éternel nous a délivrés, l'Éternel nous a libérés. Et c'est normal qu'ils rient de joie. Ça peut nous arriver parfois de rire de joie. Eh bien, ils riaient de joie, tellement ils étaient reconnaissants, leur langue exultait, tellement ils étaient contents pour tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et d'ailleurs, leur louange était même un témoignage parmi les nations. Verset 2. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils louaient le Seigneur, les non-chrétiens les regardaient et disaient, ah ben Dieu a fait pour ces gens-là de grandes choses. Mais au verset suivant, le psalmiste dit, et il déclare de façon personnelle, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Les non-chrétiens peuvent dire, l'Éternel a fait de grandes choses pour les chrétiens. Mais il faut aussi que les chrétiens disent, c'est vrai, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Et le résultat, nous sommes dans la joie. Il y a 9 ans, c'était les 50 ans du centre des jeunes à Saint-Lunaire. Et on a choisi un verset biblique pour toute la publicité et comme thème du week-end. Et le thème était, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. C'est de ce verset biblique. Il y a un autre verset qui était choisi pour l'année prochaine, pour les 60 ans. Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Il y a 9 ans, c'était les 40 ans. L'année prochaine, c'est les 50 ans. Je vais plus vite que la musique. Hein. C'est signe de vieillesse, je crois. En tout cas, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et je peux vous dire que si vous voulez être découragé, abattu, au fond d'un trou, eh bien, pensez à tout ce qui ne va pas dans le monde, pensez à tout ce qui ne va pas dans votre vie, pensez à tout ce qui ne va pas dans votre corps, et vous allez déprimer, et vous allez déprimer tout le monde. Par contre, si vous voulez être stimulé, motivé et encouragé, eh bien, pensez à tout ce que Dieu fait, à tout ce que Dieu a fait, à tout ce que Dieu promet de faire. Et là, vous ne serez pas abattu et découragé, vous serez motivé et vous serez reconnaissant et vous serez une lumière dans ce monde de ténèbres. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Versets 5 et 6. Semer et récolter. C'est presque une vérité de la palisse, mais c'est une vérité biblique. Ce qu'on sème, on récolte. Dans la vie, dans le jardin, même parfois on récolte des choses qu'on n'a pas semées. Mais ça vient d'ailleurs, et puis ça pousse. Et dans la vie, c'est pareil. On récolte ce qu'on sème. Je crois que je vous ai déjà dit qu'il y a quelques années, un de nos enfants, que je ne nommerai pas, a fait des bêtises dans une classe à l'école primaire, donc il était petit, pardonnable, et la maîtresse nous a convoqués pour la énième fois, et donc cette fois-ci, c'est le papa qui est allé, et la dame a dit, Monsieur Sutherland, votre enfant, il est en train de... Parce qu'il avait été puni pour ses bêtises, bien sûr, et on était d'accord avec la punition. Et la maîtresse a dit, Monsieur Sutherland, votre enfant est en train de récolter ce qu'il a semé. Alors cette femme, je savais, était très laïque, très anti-Dieu. Donc j'ai dit avec un grand sourire, ah, mais madame, vous venez de citer la Bible. Donc elle n'a pas fait un grand sourire. Et elle a rajouté des choses que je ne vais pas dire en public. Mais en tout cas, et un enfant peut récolter ce qu'il sème. S'il sème des bêtises, bon, il récolte certainement des punitions. Mais en tout cas, ici, dans la vie, dans la Bible, on récolte ce qu'on a semé. Lorsque le peuple de Dieu est revenu de leur exil, eh bien, un des prophètes que Dieu leur a envoyé était le prophète Agée. Et Agée qui dit, dans Agée chapitre 1, « Il y a beaucoup de sécheresse dans le pays d'Israël. Vous êtes revenu, c'est la sécheresse, mais malgré tout, semez et la pluie va venir. » Et la pluie est venue et ils ont pu récolter ce qu'ils ont semé selon Agée 1 et Agée 2. Vous connaissez la parabole du semeur. Il est parti semer sur 4 terrains différents. Et dans Galates 6, nous lisons ceci. « Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il récoltera aussi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Faire du bien sans relâcher. C'est comme une semence dans des cœurs. On parle aussi de semer la parole, comme dans la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu, Luc 8, verset 11. Eh bien, parfois, on veut aussi semer la parole de Dieu, donner un évangile, citer un verset biblique à quelqu'un, même si la personne nous rit au nez. Eh bien, on peut semer dans ce sens-là. Et d'une manière ou d'une autre, il y a des récompenses. J'ai eu un appel hier d'un ami à Arras, qui est un ami handicapé, physiquement et mentalement, et souvent sorti distribuer des traités dans les boîtes aux lettres. Et quand on était dans une rue, il faisait un côté, je faisais l'autre côté, il a fait un côté, j'ai fait l'autre côté. On avait dit, si tu te fais attaquer, donc j'ai dit, si je me fais attaquer par un chien, tu viens à mon secours. Je lui ai dit, si tu te fais attaquer par un chien, j'appelle la police. En tout cas, un jour, on a fait un quartier, il a distribué dans une rue, et des gens ont écrit, ils se sont convertis 3 ans plus tard, grâce à ce frère qui avait distribué, qui avait semé un petit papier dans la boîte à lettres. Le couple s'est converti, s'est fait baptiser, et était au culte avec lui dimanche dernier. Et ça remonte à voilà 10 ans. Mais on doit semer. Je vais terminer là, juste avec ce qui s'est passé il y a quelques années, il y a plus de 100 ans. Un monsieur qui était homme d'affaires, il s'appelait John, il arrive dans une ville, tard le soir, il va aller à l'hôtel. Donc il va à l'hôtel, on est en 1898, et à l'époque, on partageait des chambres avec des étrangers. Donc il dit à l'accueil, ben, écoutez, je veux une chambre pour la nuit, et la dame dit, ben, il n'y a plus de chambre. Toutes les chambres sont prises, mais tous les lits ne sont pas pris. Il y a un lit dans une chambre, mais vous allez devoir partager avec un monsieur. Donc John a dit, ben oui, ok, pas de souci, ça se faisait tout le temps. Donc, il va dans la chambre, il fait connaissance avec le monsieur, et puis ils sont sur le point d'éteindre la lumière pour faire dodo, et John dit, tout en tremblant, « Monsieur, est-ce que je peux laisser la lumière encore quelques minutes ?» Et le monsieur dit, bah, « Si vous voulez. »« Oui, parce que vous savez, j'ai promis ma mère, quand j'étais enfant, avant qu'elle meure, que je lirais quelque chose dans la Bible tous les soirs. Donc, je n'ai pas encore lu aujourd'hui. » Et l'autre monsieur dit, « Ah bon, vous êtes chrétien ?» Et John a dit, « Ah oui. » Ah, et Sam, l'autre, « Ah mais je suis chrétien aussi. Allez, tu lis à haute voix, comme ça on peut lire et prier ensemble. » Ah bon, c'est formidable. Donc, ils ont fait ça, et puis ils ont dit le lendemain matin, après le petit-déj, café et croissant aux États-Unis, « Allez, on va se revoir. » Donc, quelques mois plus tard, ils se sont revus, et ils ont dit, « Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose pour évangéliser les gens qui voyagent tout le temps ?» Et quelques mois plus tard, en 1899, ils ont convoqué plusieurs hommes d'affaires. Il n'y avait qu'un qui est venu. Donc, ils étaient 3 ensemble. Et ils ont fondé une association qui s'appelait, et qui s'appelle aujourd'hui, l'Association internationale des Gédéons, pour mettre des Bibles dans des chambres d'hôtel, dans des prisons, dans des écoles, ou en France, à la sortie des lycées. Eh bien, ils ont semé 2 milliards de Bibles et de Nouveaux Testaments depuis un siècle, sur les 5 continents. Et souvent, on entend parler des gens qui se convertissent parce qu'ils ont trouvé un Nouveau Testament dans une chambre d'hôtel ou alors en prison. Nous avons pu mettre quelques Nouveaux Testaments dans la bibliothèque de la prison du Mans il y a quelques années quand j'étais là avec Gérard Payon. Et on sème et les Gédéons continuent à semer. Mon père faisait partie des Gédéons pendant des années et des années. Et quand on habitait dans le centre de l'Écosse, chaque année, il allait dans une école pour former des policiers. Et il donnait un Nouveau Testament à chaque futur policier. 150, 200 à la fois. Chaque année, il faisait ça pendant des années et des années. C'était dans les années 60. Alors, il y a à peu près 20 ans, nous avons rencontré une missionnaire en France. Et on discutait avec cette missionnaire, et elle était écossaise. Avant d'être missionnaire, elle était policière. Et elle a fait sa formation dans l'école que visitait mon père. Elle a reçu un Nouveau Testament dans les années 60. Elle ne voulait rien savoir de la Bible, mais ce Nouveau Testament, elle n'osait pas le jeter. Donc elle a gardé, et des années plus tard, un jour des blues, elle a trouvé ce Nouveau Testament, elle a lu, elle se convertit. Et des années plus tard, elle est venue comme missionnaire en France. Semé dans le cœur. Alors, je ne sais pas ce que vous allez semer cette semaine, mais je vous encourage à semer de belles choses. On n'a pas toujours l'occasion de semer la Bible, de donner un traité, de donner l'Évangile, mais on peut semer de belles choses, faire de bonnes œuvres, faire du bien. Tant de gens aujourd'hui autour de nous font du mal, mais Dieu nous appelle à faire du bien sans se fatiguer, sans relâcher, sans se décourager. Que le Seigneur nous aide, même si on sème avec des larmes, et combien de fois on peut prier avec des larmes. Mais Dieu promet, il y aura une récolte d'une sorte ou d'une autre, tôt ou tard. Que le Seigneur nous aide à nous confier en lui, que le Seigneur nous aide à être reconnaissant et que le Seigneur nous aide à semer et à lui faire confiance pour la moisson. Amen.